Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction le Grand Large, la pointe bretonne face à la mer. C'est ici que l'écrivain français Tanguy Vielle situe son nouveau roman intitulé « Article 353 du Code pénal » aux éditions de Minuit. Auteur de 7 livres en 20 ans, Tanguy Vielle, cinéphile et amateur du genre noir, revient avec un récit très ancré dans une époque, les années 80, un lieu, une presqu'île, une classe sociale, celle des démunis. Et pourtant, au-delà de ces singularités, c'est un roman qui nous touche tous par son écriture minutieuse, son humanisme et son rejet de la banalité du mal. Une réflexion aussi sur la justice, celle des lois et celle des hommes, avec un titre, article 353 du Code pénal donc, qui prend tout son sens à la fin du roman, à la fin de cette longue confession dans le bureau d'un juge. Mais tout de suite, place à la parole de l'auteur, Tanguy Vielle. Bonjour Tanguy Vielle.
Bonjour.
Votre nouveau roman s'ouvre et se referme sur deux scènes maritimes. La première où l'on voit un homme jeté à l'eau par un autre qui le pousse du bateau, un homicide volontaire. Et la dernière où l'auteur de cet assassinat regarde par la mer. D'ailleurs, de façon générale, c'est un livre très marqué par les quatre éléments, l'eau, la terre, le vent, très présent puisque le récit se déroule sur une presqu'île en Bretagne, et même le feu, qui est celui de la balle de fusil, par exemple, ou de l'humiliation qui consume vos personnages. Mais est-ce que l'océan a été l'une des premières images qui aurait pu déclencher l'écriture de ce livre ?
Je dois dire que j'ai quand même une prédilection pour ces paysages-là, bretons, du Finistère, enfin qu'on peut déplacer, mais c'est vrai que là, en plus, pour une fois, je me permets de nommer un peu les lieux. Mais c'est peut-être moins l'océan dans ce livre-là que la rade elle-même, c'est-à-dire un espace quand même un peu plus stagnant, où les éléments se confondent un peu.
Qu'est-ce que c'est une rade ?
Une rade, alors c'est la définition précise, c'est qu'il faut que ce soit un peu fermé par rapport à l'océan. C'est-à-dire si c'est pas une baie, c'est pas un golfe, qui sont des sortes de danses comme ça, qui sont ouvertes sur la mer, tandis que la rade, elle doit être fermée et s'ouvrir sur la mer seulement par un goulet d'étranglement, donc par une toute petite sortie en fait. Sinon, c'est comme presque un lac. Légèrement ouvert sur la mer, voilà. Donc un lac d'eau salée aussi évidemment. Mais c'est surtout un espace où quand la mer se retire, bon, c'est très vaseux. Quand la mer remonte, c'est au contraire extrêmement beau et très bleu. Et puis il y a une végétation particulière. Enfin, il y a un mélange entre la roche, les arbres qui ont l'air de toujours un peu tomber dans la mer, et puis ces couleurs un peu, souvent un peu brumeuses aussi, parce que c'est une eau qui attire la brume, qui la capture presque aussi. Alors, bien sûr, c'était très important. C'était même complètement... Enfin, je veux dire, c'était l'origine presque du livre, ces images de rade et tout ça. Parce que ça disait aussi... je crois que c'est de cette rade-là qu'a pu naître la voix du personnage. C'est-à-dire une fatigue, une déploration peut-être, une mélancolie aussi, sans doute, qui est le grain même, je crois, de la voix du narrateur.
On va en parler de ce narrateur, puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Et le récit commence par un crime, celui d'un promoteur immobilier qui, depuis son arrivée sur la presqu'île, a ruiné au sens propre du terme toute la commune, avec un projet de station balnéaire qui ne verra jamais le jour. Et l'escroquerie est donc racontée par cet homme qui a mis enfin un terme à cette déchéance qui est à la fois collective mais personnel, parce que Martial Kermer, cet homme donc, ce narrateur, est à proprement parler à bout. Que représente Martial Kermer pour vous, Tanguy Vielle ?
Il représente d'abord ce qu'il est concrètement, c'est-à-dire un homme d'une cinquantaine d'années qui est un ancien ouvrier, qui a été licencié, qui au fond s'accommodait de cette vie assez paisible, y compris même dans le licenciement, n'ayant pas de grandes ambitions, peut-être celle de s'acheter un petit bateau et d'aller à la pêche tous les jours au fond, d'élever son fils, et voilà, de négocier comme ça le petit contrat avec l'existence, et en même temps, sans doute... Il peut représenter la figure de l'indécision, c'est-à-dire de quelqu'un qui, au fond, n'est pas assez convaincu de sa propre existence ou qui n'est pas atteint un degré suffisant peut-être de souveraineté à l'égard de lui-même pour ne pas être sans cesse au péril ou au risque d'être en fait dominé, en fait pris par quelqu'un d'autre ou de se tromper en fait dans son existence. Voilà. Et je crois que le parcours qu'il raconte, c'est celui d'un engrenage d'erreurs qu'il constate a posteriori et qui effectivement l'auront poussé à l'exaspération.
Oui, c'est un homme aux abois aussi. C'est un homme pris au piège.
Puisque ce qu'il raconte, déjà, il le raconte à un juge. C'est quelqu'un qui, effectivement, a poussé au bout, finalement, un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que pour se libérer d'une étreinte qui avait l'air de se, ou d'un étau, même, qui avait l'air de se resserrer sur lui, et qui était à la fois un étau financier, mais aussi, peut-être un étau psychique, c'est-à-dire une certaine manière de se voir, et de se voir, minable, sans doute. Ce qui fait que le geste, à l'inverse, qui va le rendre encore plus, non pas minable, mais en tout cas qui va le mettre encore plus dans une situation terrible, au fond était un geste libérateur, en quelque sorte.
Donc Martial est arrêté et il raconte sa version à un juge d'instruction. Mmh. Et lors de ce huis clos, dans ce bureau et ce face-à-face, se revit cette tempête qui donc depuis 6 ans a détruit la communauté avec ce promoteur qui a fait miroiter à tous la possibilité de mieux vivre. Et vous avez situé, Tanguy Viel, ce roman à un moment très précis entre 1992 et 1998. Et ce sont des dates que l'on déduit à partir de la naissance du fils Kermer, Erwan. Il est né en mai 1981, le jour même de l'élection de François Mitterrand. Est-ce que situer cette histoire à ce moment précis, c'est aussi une façon de dire que cette tragédie libérale vécue par la presqu'île est d'une certaine façon le début de la mort du rêve socialiste ?
Oui, c'est-à-dire, bon, moi je crois que j'ai assez naturellement situé l'intrigue dans ces années 90, elles-mêmes, comme vraiment, je crois, non pas des années décisives en elles-mêmes, mais qui ont payé un peu les années 80. D'abord, c'est ma génération, c'est-à-dire que j'ai eu 20 ans dans les années 90, donc je crois qu'à un moment, j'avais envie de saisir une humeur, un climat, et ce climat-là, eh ben, il a son, bien sûr, il a son terreau politique, mais comment le politique a induit des conduites intimes ou des conduites individuelles ou comment il permet, au fond, des fois, comment il relâche plus ou moins les valeurs collectives. Et c'est vrai que, il me semble que l'image que j'ai encore là des années 80, ce sont les images d'un certain dévoiement quand même, en tout cas d'un arrangement fait de la part du socialisme et des utopies de gauche qui pouvaient être nées encore quelques années plus tôt, un arrangement avec les politiques libérales et avec l'argent. C'est la figure pour moi avec laquelle j'ai l'impression d'avoir le plus grandi dans les années 80, c'est Bernard Tapie. Et pour moi, il y a deux visages qui émergent de cette décennie, c'est Mitterrand et Tapie. Mais dans leur collusion, justement, dans leurs arrangements, même dans leur mafia, si je puis me permettre. Alors, au fond, je crois que le personnage du promoteur est une sorte de Tapie au petit bras, qui, à sa manière, c'est à lui que j'ai pensé au départ. Après, je crois pas avoir fabriqué une figure qui soit une caricature de Tapie ou quoi, mais... Donc, bien sûr, je réfute absolument pas l'arrière-fond politique. Encore une fois, c'est simplement qu'à un moment... Je crois que si on fait du roman, c'est pas pour faire une fable sociologique, ni pour se sentir un analyste d'une époque. Pour ça, il y a des historiens ou des politologues. Mais pour transformer ça en émotion ou voir qu'est-ce que ça fait sur des êtres, dans des psychés. Et là, en l'occurrence, aussi sur un paysage, tout simplement.
Et sur des vies ordinaires.
Et sur des vies ordinaires, bien sûr. Sur la vie tout court, sur la vie mentale, sur les rapports entre les êtres. Sans doute que ces mêmes personnages, dont le narrateur, mais aussi peut-être le petit maire de la commune, qui était lui-même un socialiste aussi, ne se serait pas embarqué là-dedans, mais on pourrait dire aussi sans doute que ce promoteur aurait pas débarqué là en 1965. Bon, après, il faut pas exagérer sur le caractère historique des choses. Une histoire d'escroquerie, on en trouve chez Balzac, on en trouve chez Faulkner, enfin, je veux dire, on peut prendre tous les moments de l'histoire, en tout cas de l'histoire moderne, et ce genre d'histoire existe tout le temps.
Mais situer cette histoire, alors à cette époque, vous venez très bien de l'expliquer, parce que aussi je pense que ça renvoie à ce qu'on vit 20 ans plus tard,
oui,
bien entendu.
Il n'y a pas beaucoup de différence avec aujourd'hui,
voilà.
En effet.
Mais à cet endroit en particulier, que vous connaissez bien par ailleurs, Tanguy Viel, parce que vous avez grandi dans cette région de Bretagne, vous connaissez bien Brest, vous connaissez cette rade que vous nous décrivez. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de lié à la nature, et la nature à la fois dans sa plus grande force et aussi dans sa fragilité quand elle est dénaturée par des projets immobiliers insensés?
Oui, eh ben, écoutez, comme vous le dites, vous me le faites découvrir, ou plutôt vous me faites faire un lien que j'avais pas fait entre la nature et l'enfance. puisque pour moi, cette ville ou cette région, c'est mon enfance. Je l'ai quittée à l'âge de 12 ans, et donc elle est restée ce territoire un peu, comme dirait Proust, du paradis perdu, et au fond, donc d'une nature aussi, qui elle-même est un paradis perdu, et enfin, elle l'est, elle n'est pas perdue d'ailleurs comme nature, puisque finalement, ce projet immobilier n'existe pas. Mais vous avez
complètement raison. Vous l'avez sauvé, d'une certaine façon. Il ne restera que cette maquette, ouais. Cette petite chose à la fois réductrice et en papier.
Voilà, mais c'est sûr que pour moi, c'était très important, et je crois que sans doute la figure du méchant, au fond, parce que je crois que ce promoteur, c'est vraiment la figure du mal. Je crois pas lui laisser beaucoup de chance, même si lui-même est pris dans un engrenage qui d'ailleurs le dépasse un peu, sans doute. C'est-à-dire que c'est pas un manipulateur absolu, sans doute pas. C'est juste un type qui, à la limite, croit dans ses fantasmes un peu délirants ou dans ses grands projets, et puis, à un moment, s'arrange pour récupérer le fric pour lui, quoi. C'est aussi bête que ça. Mais enfin, cette méchanceté, c'est quand même la méchanceté du monde des adultes ou du monde du pouvoir et du monde aussi de ce que on se targue un peu fort d'appeler civilisation et contre lequel, finalement, les valeurs les plus justes seraient encore celles de l'enfance, d'une certaine innocence, d'une certaine sauvagerie. Et là, on peut encore penser à la sauvagerie de la nature, en effet, c'est-à-dire la mer, les arbres, qui n'ont rien demandé à personne.
Bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Tanguy Viel, avec qui nous parlons de ce nouveau roman, article 353 du Code pénal. On ne l'a pas encore dit, mais c'est un récit, et peut-être surtout et d'abord, qui raconte les liens particuliers entre un père et son fils. Quel modèle, quel exemple, quel héritage transmet-on à ses enfants? Est-ce que c'est aussi un des sujets qui vous intéressait dans ce roman, Tanguy Viel?
Oui, et pourtant, alors il a pris de la place peu à peu dans l'écriture du livre. C'est-à-dire que le livre s'est d'abord construit sur ces deux figures qui sont celles de l'homme floué et celles de l'escroc. Et le premier rapport de force, c'était celui-là. Et je crois que le moteur du livre, c'était quand même celui d'une forme de vengeance, peut-être. Et puis, très curieusement, à mesure que j'écrivais, je sentais affleurer cette figure de l'enfant qui
a 11 ans au début des faits.
Qui a 11 ans au début des faits et qui encaisse en fait les silences de son père, les hontes de son père, les ruminations de son père, mais au fond tout ça sans une communication directe, et puis donc le père s'enferme dans cette on imagine des heures entières passées sur un canapé à ruminer ses propres échecs, et le fils au fond grandit, et je crois que bon, mon idée, c'est ce que j'ai eu envie de développer, c'est le fait que l'enfant est une éponge et qu'on peut toujours se taire. Il y a toujours un moment où l'enfant comprendra tout, pas au sens technique du terme, mais au sens où il prendra tout sur lui.
Ouais, c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, vous avez cette phrase remarquable où Martial Kermer se rend compte qu'à un moment, en fait, tout ce qu'il a accumulé en lui, il a chargé son fils comme une batterie. Alors, je retrouve pas la phrase exacte, qui est évidemment beaucoup plus belle que ce que je viens de dire.
C'est l'idée, en effet. Une pile électrique ou une batterie, je sais plus comment moi-même je le dis. Mais cette idée qu'entre les êtres, il y a, avant même le langage ou en deçà du langage, il y a des forces électriques, des champs presque magnétiques qui circulent. Et c'est pas être ésotérique que de dire ça. Je crois que n'importe quel psychologue assumerait volontiers de parler aussi comme ça. Alors, voilà, c'est cet endroit-là.
Alors, de fait, il m'a semblé que c'était aussi beaucoup un roman sur la parole, les mots qu'on dit trop vite, comme ceux prononcés par Kermer et qui l'ont piégé, les mots qu'on ne dit pas, par maladresse, par honte, par pudeur, et puis la parole au sens aussi de la promesse qu'on tient ou qu'on ne tient pas. Tenir sa parole. Est-ce que c'est un défi aussi pour un romancier d'écrire justement ce qui ressort de l'oral et de ses défaillances?
Je crois que le rêve que j'aime, et que je rêverais peut-être qu'il soit entre les êtres, c'est qu'on puisse toujours être à jour de ce que notre âme ressent, et que dans le langage qu'on parle, on soit à la même vitesse ou à la même, à la même transparence. Bon, c'est pas le cas. Et donc là, il y a une sorte de frottement entre ce qu'on ressent, etc., et puis ce qui se passe dans la parole. Alors, quelquefois, il y a des gens qui, en faisant usage de rhétorique, arrivent à bien masquer leurs émotions et à prendre le pouvoir. Et puis il y a ceux qui sont dans l'hésitation, la fragilité, dont la parole vacille sans cesse, et qui, je crois que c'est le cas un peu de mon narrateur, il voudrait tellement être honnête, mais en même temps, il n'a aucun langage pour l'être vraiment. Et en même temps, il est pris en défaut de situation, dans la réalité, qui font que quelquefois il se tait, quelquefois il dit pas la bonne phrase quand il faudrait la dire. Et puis, par contre, je crois que devant ce juge, c'est là où je crois volontiers à la parole, un peu comme un lieu de réparation ou un exutoire ou je sais quoi. C'est que là, je crois que devant le juge, et donc le livre qu'on lit, j'espère, enfin, il arrive à déployer une parole. Mais cette parole ne fait que dire tous les moments où il n'a pas réussi à la déployer ou pas réussi à être juste avec elle.
Donc c'est ce que je disais, c'est une sorte de défi pour un écrivain. Mettre par écrit quelque chose qui relève de la parole et de l'oral, quoi.
Et comme vous disiez, mettre aussi en scène les défaillances elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut, il me semble que la parole d'un écrivain, mais bon, là-dessus, il y a autant d'écrivains que d'avis, mais c'est pas forcément d'être celui qui est un professionnel de la parole et qui donc aurait un savoir et saurait écrire à la place des autres. C'est quelqu'un qui met en scène les difficultés à parler, à raconter et les endroits d'hésitation, les endroits d'achoppement. Et s'il n'y a pas toute cette fragilité à l'œuvre, à mon sens, écrire perd un peu de son intérêt.
Donc on l'a évoqué, c'est un roman à la fois sur l'économie, sur la politique, sur la question de la paternité, sur la question de la dignité, sur la question de la loyauté. Et puis c'est quand même aussi un roman qui pose la question de la justice. Mais est-ce que la loi, Tanguy Viel, est en mesure de tout juger ?
Je crois que c'est le problème un peu, entre guillemets, métaphysique du livre, quoi. Sur lequel je suis pas sûr qu'il tranche, le livre. Je crois qu'il pose vraiment cette question d'abord, qu'est-ce qu'un juge, quel degré d'empathie, de bienveillance, quel rapport il a entre la tenue d'un espace statutaire comme ça, qui est celui de la loi pure, et puis au fond, toutes les circonstances qui circulent autour de ça, et... Bon, alors moi je trouve que là, et c'est le plus passionnant pour l'existence, mais c'est aussi le plus tragique, parce que ce sont des endroits d'incompatibilité permanente, de tiraillement, de choix cornéliens, de tragédie en fait. Mais là aussi, je me permettrais de ne pas avoir une réponse trop tranchée.
Et en effet, parce que le titre du roman va s'expliquer à la toute dernière page, dans un rebondissement dont nous ne parlerons pas. Et cet article de loi, vous décidez de l'utiliser à la fin du roman, mais il n'est pas sûr que dans la réalité ce soit possible. Donc justement, je me demandais, Tanguy Viel, est-ce que ce qui n'est pas fascinant aussi, c'est ce pouvoir de la littérature de faire exister des situations qui sont peut-être impossibles dans la vraie vie ?
Oui, en effet, je ne pense pas que ce soit un roman réaliste, en fait. D'abord, tout bêtement, si je prends un exemple technique, normalement, quand vous êtes devant un juge d'instruction, il y a forcément un greffier.
Donc qui là, n'existe pas
qui n'existe pas dans le livre.
Ou alors il est très discret.
Ou alors il serait effectivement très discret parce qu'il est vraiment pas mentionné. Bon, ça aurait pu rajouter un peu de décorum, faire une figure un peu étrange d'un type dans le coin qui prend des notes sans rien dire. Bon, j'ai choisi que tout se cristallise sur cette relation, vous voyez, très duale comme ça entre le juge et l'assassin, comme on dit. À défaut d'autres mots, oui, parce qu'au fond, peut-être c'est plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. J'ai pas prétention à ce que le livre soit une situation réelle. Je pense que c'est quand même une fable. Ou c'est une situation suffisamment superlative, ou suffisamment théâtrale même, pour qu'elle essaye de concentrer des émotions et des affects qui rejaillissent, si tout va bien, sur la réalité. Enfin, il faut que le lecteur soit capable de s'identifier à ces situations, mais elles ont pas besoin d'être naturalistes.
Oui, mais est-ce que c'est pas jouissif pour un écrivain, justement, d'être plus fort que le fait divers ou plus fort que le fait lui-même ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que ce qui est extrêmement jouissif, en effet, dans l'écriture, c'est de pouvoir opérer des fantasmes ou assumer des situations que le réel ne permettrait pas. Donc, il y a un effet de réparation, là aussi. Alors, toute proportion gardée, parce que c'est pas l'esprit du livre, mais un peu le sentiment qu'on a quand on regarde les films de Tarantino, et que, notamment, je pense à ce fameux Inglourious Basterds, où quand même, il fait mourir Hitler dans un cinéma, en le brûlant, en 1943. Donc, carrément, il réécrit l'histoire réelle de ce moment. Et qui n'aurait pas rêvé cette chose-là, quoi. Alors voilà, ça, c'est un pouvoir merveilleux. Est-ce qu'il a des vertus autres que celles de nous soulager l'instant même de la lecture? Je sais pas. Je m'avancerai pas là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que c'est une grande joie de l'écriture, oui.
Merci beaucoup, Tanguy Viel. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Article 353 du Code pénal. Un roman qui est apparu aux éditions de Minuit.
Merci.
Mémoire d'un continent.